Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Qu'est-ce qui fait la particularité du crime contre l'humanité avec les autres crimes internationaux ? Dans la pensée de Mireille Delmas-Marty, éthique et philosophie viennent en complément du droit. En posant depuis plusieurs années déjà le droit comme valeur, Mireille Delmas-Marty analyse cette fois cette dénomination pénale et cet outil du droit dans son ouvrage « Le crime contre l'humanité » publié au PUF en septembre 2009. Elle analyse cette dénomination pénale et cet outil du droit comme une double référence qui fait de l'humanité une victime et une valeur à défendre. Comment a évolué la notion de crime contre l'humanité depuis 1945 ? Quelles sont ces variations et répond-elle aux besoins de notre monde actuel ? J'accueille aujourd'hui dans notre studio Mireille Delmas-Marty, professeure au Collège de France et membre de l'Académie des sciences morales et politiques, pour nous parler de cette notion, ses variations et ses évolutions possibles dans le contexte de la mondialisation et du développement durable, au moment où Mireille Delmas-Marty s'apprête à sortir un nouveau livre aux éditions du Seuil, en février 2010, « Liberté et sûreté dans un monde dangereux ». Mireille Delmas-Marty, bonjour.
Bonjour.
Mireille Delmas-Marty, qu'est-ce qui fait la spécificité de la notion de crime contre l'humanité ?
Déjà, c'est une dénomination un peu surprenante, crime contre, non pas les personnes, les biens, l'État, mais contre l'humanité tout entière. Donc c'est la victime qui est ainsi désignée par la dénomination de crime contre l'humanité. Ce qu'on veut dire en même temps par là, c'est que ce sont les crimes qui sont placés tout en haut de la hiérarchie, ce sont les plus graves des crimes internationaux. Mais curieusement, les textes juridiques, que ce soit le statut du tribunal de Nuremberg ou les statuts qui ont suivi, dont on parlera peut-être plus loin, les textes juridiques ne définissent pas l'humanité. Ils font une énumération des comportements qui sont considérés comme crimes contre l'humanité. Ce sont des comportements évidemment très graves, qui comportent certes pour la plupart, mais pas tous d'entre eux, une extermination, de non pas d'une personne, mais d'une population civile, d'un groupe, souvent des discriminations, un groupe qui est choisi à raison de la race, de la religion, de l'ethnie. Donc l'idée, c'est qu'à travers ces crimes, c'est toute l'humanité qui est remise en cause. Mais l'énumération, ce qui est frappant quand on regarde les textes, c'est que l'énumération n'est jamais terminée. Il y a une première liste qui est relativement courte pour le tribunal de Nuremberg. On peut encore la lire, elle n'est pas très longue. Les crimes contre l'humanité, c'est-à-dire l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toute population civile, avant ou pendant la guerre. Et le texte ajoute encore les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux. Tout cela constitue un crime contre l'humanité. Mais si on regarde les textes qui suivent, la liste s'allonge. On va voir, par exemple, au moment de la création du tribunal pour l'ex-Yougoslavie, on va ajouter des infractions sexuelles. On va ajouter des viols.
L'esclavage sexuel.
L'esclavage sexuel, le viol. On verra apparaître la torture aussi comme une des composantes possibles. Donc on a l'impression d'une liste toujours recommencée. On peut se demander si ce n'est pas un peu une façon de répondre aux peurs d'un moment, aux peurs créées par les circonstances de temps et de lieu.
Est-ce que c'est ce qu'on appelle des crimes spécifiques aux crimes de l'humanité, ce que vous venez d'énoncer ?
Alors, ce qu'on appelle les crimes spécifiques, c'est à l'intérieur, dans la grande catégorie des crimes contre l'humanité, telle qu'elle est définie au départ à Nuremberg, il y a ce qu'on appelle crimes spécifiques, c'est par exemple le génocide. Ce n'est pas n'importe quel crime contre l'humanité, c'est à raison de l'origine d'un groupe, la volonté d'extermination. Et c'est un crime qui, au départ, à Nuremberg, n'est pas distinct du crime contre l'humanité, il en fait partie. Et puis, après la guerre, donc après le jugement de Nuremberg, il y aura très vite, en 1948, une convention spécifique pour le génocide, qui prévoit un régime particulier et qui prévoit notamment la compétence de la Cour internationale de justice pour juger éventuellement des conflits entre États. Et jusqu'à présent, la Cour de justice n'a jamais déclaré un État coupable de génocide. Elle ne pourrait pas le faire pour le crime contre l'humanité en général, mais elle pourrait le faire pour le génocide en application de ce texte de 1948. Elle n'a jamais été jusqu'à reconnaître un État
la culpabilité coupable, d'un État,
reconnaître sa responsabilité.
Cette distinction, elle est très importante. Donc on a une distinction entre les crimes contre l'humanité et le génocide.
Ce qui est très important aussi, ce qui est peut-être encore plus important, parce qu'entre les crimes contre l'humanité et le génocide, les peines sont les mêmes quand il s'agit d'auteurs individuels. La distinction, elle est plutôt symbolique, c'est-à-dire que dans certaines décisions des tribunaux créés pour l'ex-Yougoslavie ou pour le Rwanda, il est dit le génocide est le crime des crimes. Le crime contre l'humanité est le crime le plus grave des crimes internationaux.
La gravité, c'est un critère.
Et le génocide est le crime des crimes. Mais comme les peines encourues sont les mêmes, c'est plus symbolique que vraiment à conséquence pratique. En revanche, ce qui est très important, c'est de se demander quelle est la différence entre le crime contre l'humanité et le crime ordinaire, si atroce soit-il. Alors, quelle est cette différence ?
Quelle est cette différence ?
Le crime contre l'humanité, tel qu'il est défini donc, par les textes, suppose quelque chose de massif. Une attaque systématique ou généralisée, c'est souvent les deux d'ailleurs, en fait, en pratique, systématique et généralisée, contre une population civile. Et une attaque qui est lancée soit par un État, soit par une organisation, pas un simple individu, une organisation
et ça,
constituée en vue de cette attaque. Donc il y a quelque chose de massif. Et au fond, ce qui distingue, me semble-t-il, de façon sous-jacente, parce que ce n'est pas dit comme ça dans les textes, le crime contre l'humanité d'un crime aussi grave soit-il contre une personne, c'est que dans le cas du crime contre l'humanité, comme d'ailleurs dans le cas du génocide, les victimes ne sont pas choisies à titre personnel. On ne vous tue pas parce que vous avez fait ceci ou cela, ou vous n'avez pas fait ceci ou cela. On vous tue parce que simplement vous êtes né dans telle catégorie que l'on veut exterminer. Et c'est ça qui est la spécificité en réalité. Parce que c'est une manière en quelque sorte d'enfermer un individu dans son appartenance à une communauté et de refuser à cette communauté le droit d'exister, le droit d'être humain. Donc c'est la négation d'un principe qui est fondamental, qui est en tête de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est le principe d'égale dignité de tous les êtres humains. C'est la négation de cela. Il y a des êtres humains qui ne sont pas dignes de vivre simplement parce qu'ils appartiennent à telle ou telle catégorie. Alors là, vous voyez, on sort des crimes de droit commun, même accompagnés d'actes de barbarie effroyables, parce qu'il y a philosophiquement un choix majeur qui est la négation de l'idée même d'humanité.
Est-ce que cette notion de crime contre l'humanité peut s'appliquer avant 1945 ?
Avant 1945.
Quand la notion n'existait pas. Est-ce
on parlait, c'était plutôt utilisé dans le langage littéraire ou dans le langage diplomatique. Chateaubriand s'indigne du massacre des prisonniers de Jaffa, par exemple, parce que ces prisonniers s'étaient rendus, avaient rendu leurs armes, et ils sont massacrés gratuitement, en quelque sorte. Et il dit « c'est une violation des lois de l'humanité ».
Des lois de l'humanité.
Mais ce n'est pas une expression juridique à l'époque. C'est une expression qui marque une indignation. Ce qui existait avant 1945, c'était les crimes de guerre. C'est-à-dire déjà la même idée de violation des droits de l'humanité, c'est-à-dire du respect de l'être humain, du respect de la dignité de l'être humain. Mais pendant les guerres... Et c'était une interdiction qui est venue par un certain nombre de conventions internationales à partir, en fait, c'était à l'initiative de la Croix-Rouge et à partir de la fin du XIXe siècle. Donc les crimes de guerre existaient dans la coutume internationale et dans un droit conventionnel. Les crimes contre l'humanité, on les voit annoncés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les Alliés annoncent qu'ils vont poursuivre, ils espèrent la victoire et ils annoncent qu'en cas de victoire, ils poursuivront les auteurs non seulement de crimes de guerre, mais de violations constituant des crimes contre l'humanité. Et la première énumération, celle que j'ai lue tout à l'heure, elle est inscrite dans le statut du tribunal de Nuremberg. Mais les juges de Nuremberg ont été très prudents. Parce qu'ils craignaient qu'on leur reproche ce qu'on appelle la rétroactivité des lois pénales, c'est-à-dire appliquer ce nouveau dispositif de 1945 à des faits commis avant.
On dit cette notion même lapidaire dans leur définition.
Le juge français, le juge qui était en même temps professeur de droit pénal, Donnedieu de Vabre, avait dit que la notion s'est volatilisée au cours du jugement. Parce qu'en réalité, on a retenu à la fois crime de guerre et crime contre l'humanité. On n'a pas séparé les deux comportements, ce qui permettait d'éviter le reproche d'application rétroactive des textes. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'après 1945, Il y a des textes qui ont été adoptés sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Et ces textes ont été appliqués de façon différentielle. Par exemple, la France a admis l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité, mais pas des crimes de guerre. Donc, on a vu se séparer progressivement.
Et ça, c'est pas commun à l'Europe ?
Les deux notions. Et le crime contre l'humanité a pris son autonomie. Il existe même en cas de paix. Il peut être commis même en cas de paix. Et finalement, dans le statut de ce qui a suivi ces juridictions qu'on appelle ad hoc, parce qu'elles sont créées pour juger un certain type de conflit à une certaine époque, on a créé une cour pénale permanente, la Cour pénale internationale, qui a été créée en 1998, qui est entrée en vigueur quelques années plus tard. Et devant cette cour pénale, de nouveau, il y a une sorte de séparation du crime contre l'humanité par rapport au crime de guerre, parce que sous la pression de certains pays, notamment la France, il y a une clause qui permet de retarder la ratification de la Convention pour les crimes de guerre, et de ratifier seulement le texte pour les crimes contre l'humanité. C'est ce qu'a fait la France, qui vient seulement de rejoindre le dispositif pour les crimes de guerre. Donc la notion de crime contre l'humanité, elle s'est détachée du concept de guerre, du contexte, on pourrait même dire de façon plus précise, du contexte de la guerre.
Parce qu'elle a été longtemps liée à l'idée qu'il y avait un conflit armé.
Voilà.
Et au fil du temps,
le crime contre l'humanité peut être commis en temps de paix.
Voilà, ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est révéler les...
peut être commis en temps de paix et on se demande maintenant s'il ne devrait pas s'étendre à d'autres types de comportements que ceux qui sont énumérés. Pourtant, l'énumération est déjà très longue. Je ne vais pas la lire parce qu'elle est devenue illisible. Vous avez combien d'alinéas
Il y a également les crimes d'apartheid.
L'apartheid a été considéré comme crime contre l'humanité. On a ajouté progressivement certains crimes contre les biens culturels ont été considérés par les tribunaux comme crimes contre l'humanité. La destruction d'une mosquée, par exemple.
Il y a la disparition forcée.
Alors, la disparition forcée a été ajoutée par l'ONU. Donc, on a une liste qui paraît toujours extensible. Ce qui fait qu'on en vient à se demander s'il ne serait pas opportun d'aller un peu plus loin dans le travail de conceptualisation des juristes et de définir ce qui sous-tend tous ces comportements qu'on ajoute les uns après les autres dans une longue liste.
Alors, par rapport à Nuremberg, vous avez tout à l'heure évoqué la Cour pénale internationale. Il y a eu une avancée du droit, à la fois dans la mise en œuvre des tribunaux pénaux internationaux pour le cas de l'ex-Yougoslavie et pour le cas du Rwanda. Ça a dû probablement vraiment faire avancer le droit. Est-ce que ce crime contre l'humanité, il évolue en fonction de la jurisprudence ? Il est en continuelle construction ?
Oui, ce qui est très intéressant dans cette jurisprudence, c'est que c'est une jurisprudence qui émane de juridictions vraiment internationales, avec des juges venant de différentes traditions juridiques. Comme le texte ne peut pas tout dire, qu'il s'agisse de la définition des comportements, par exemple un viol où commence et où se termine un acte de viol, ou en procédure, comment faut-il procéder aux auditions, est-ce qu'il faut faire un dossier écrit avant le jugement qu'on transmet à la juridiction de jugement, est-ce qu'il faut contrôler l'enquête du procureur, est-ce qu'il faut faire intervenir un juge. Toutes ces questions
Technique.
Se sont posées. Ce sont des questions à la fois juridiques et philosophiques, quelquefois, et ces questions se sont posées au fur et à mesure. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit dans la jurisprudence de ces tribunaux, notamment le premier créé qui était pour l'ex-Yougoslavie, qui est toujours en fonction, qui est encore en fonction, on voit un effort pour essayer de faire entrer des concepts venus des différents systèmes juridiques nationaux. Donc, on n'est pas purement dans un droit international qui serait détaché du contexte interne, qui serait détaché des traditions nationales. Il y a un processus plus ambitieux, d'une certaine manière, qui est de faire une sorte d'hybridation des droits nationaux quand il s'agit de combler des lacunes du texte international. C'est d'ailleurs prévu, ce travail qui consiste à dégager des principes du droit commun des pays. Ce mode d'interprétation est expressément prévu dans le statut de la Cour pénale internationale. Là, on voit bien que le modèle des tribunaux pénaux a inspiré la définition d'un mode d'interprétation qui, quand on ne trouve pas la réponse dans le droit international écrit ou dans le droit international coutumier, il faut la dégager des principes communs des différentes nations.
Ça voudrait dire qu'il n'y a pas une norme qui l'emporte sur l'autre, la norme interne ne l'emporte pas davantage sur la norme internationale, mais que toutes ces...
En principe, il y a primauté pour les juridictions ex-Yougoslavie et Rwanda. Il y a un principe de primauté de la
pour l'application.
Juridiction internationale sur la juridiction nationale. Mais en réalité, on s'aperçoit que ce principe de primauté va s'affaiblir dans l'application pratique. On renverra un certain nombre d'affaires aux juridictions nationales. Et quand on arrive au statut de la Cour pénale permanente, la Cour pénale internationale dont vous avez parlé, le statut c'est 1998, là, on ne pose pas le principe de primauté. Les rédacteurs de la Convention posent un principe de complémentarité. C'est très parlant. Ça veut dire que les crimes contre l'humanité ne peuvent pas être tous jugés par une cour unique qui serait en position de surplomb, mais ils reviennent d'abord aux juridictions nationales. Et c'est seulement quand un État n'a pas la possibilité ou n'a pas la volonté de juger lui-même l'affaire que la Cour pénale internationale est compétente. Donc il y a une sorte de principe de subsidiarité en réalité. Les juges internationaux ne sont compétents que si l'État n'exerce pas sa propre compétence.
Marquons une courte pause et retrouvons dans quelques instants Mireille Delmas-Marty qui est venue nous parler du livre « Le crime contre l'humanité » publié au PUF en septembre 2009. Est-ce qu'un État qui n'a aucun lien avec un crime contre l'humanité peut juger l'auteur d'un crime contre l'humanité, même si cette accusation portée ne s'est pas déroulée sur son territoire ?
Alors ça, c'est une question très importante qui a été en effet posée, parce qu'après tout, c'est l'humanité tout entière qui est en cause. Donc
comment
pourquoi ne pas considérer que tous les États sont concernés puisque l'humanité est concernée ? C'est ce qu'on appelle le principe de la compétence universelle. En réalité, c'est un principe qui n'est pas directement imposé par les textes, qui a été admis par certains pays, la Belgique notamment l'avait introduit dans son système de droit, mais c'est un principe qui pose de gros problèmes diplomatiques, parce qu'au nom de ce principe, des plaintes avaient été déposées en Belgique contre des responsables politiques divers, et même des mandats d'arrêt avaient été lancés. Alors, il y a eu des pressions, comme c'était à l'époque des plaintes déposées contre les responsables américains. Il y a eu des pressions très fortes et la Belgique a renoncé à sa loi sur la compétence universelle. Alors, cela étant, il y a une forme de compétence, pas totalement universelle, mais quasi universelle, qui est plus facile à admettre. C'est qu'un État puisse juger un responsable étranger qui a commis à l'étranger des crimes contre l'humanité, si les victimes de ces crimes ont elles-mêmes sa nationalité. Dans une affaire belge, par exemple, qui concernait le Rwanda, une partie des victimes était belge. Dans une autre affaire jugée en Espagne, contre des dirigeants d'Amérique latine, une partie des victimes était espagnole. À ce moment-là, il y a un lien de rattachement qui est la nationalité de la victime. Alors, il y a un autre cas de figure, qui est un lien de rattachement plus ténu, mais qui peut avoir un sens. C'est le lieu de résidence de l'auteur. L'auteur est étranger, il a commis ses crimes à l'étranger contre les victimes étrangères, mais il s'est réfugié et il réside dans le pays. À ce moment-là, la compétence universelle peut fonctionner. Et d'ailleurs, elle fonctionne pour d'autres crimes, comme les crimes de torture. Elle a fonctionné, y compris en France, pour les crimes de torture. Donc, cette question de la compétence universelle, elle est très complexe parce qu'il y a des degrés et il faut des conditions minimales. L'intérêt de cette technique, si on peut parler de technique juridique à ce sujet, c'est évidemment de lutter contre l'impunité, d'éviter l'impunité. L'inconvénient, c'est de donner compétence à des pays très différents les uns des autres, avec des règles qui sont différentes, des systèmes de droit différents, des règles de procédure qui ne sont pas nécessairement protectrices, des peines différentes. N'oublions pas qu'au niveau supranational, la peine de mort n'existe plus, mais elle existe encore au niveau national dans beaucoup de pays. Donc ça peut créer une sorte de grand désordre juridique mondial si le principe devait s'appliquer, se généraliser. Et s'il ne se généralise pas, il y a un autre risque d'inégalité entre les pays qui ont les moyens de poursuivre très largement et ceux qui n'en ont pas les moyens. Donc la bonne solution, c'est sans doute pas celle-là. La bonne solution, c'est sans doute ce qui est inscrit dans les textes, mais ce qui reste à devenir réalité, c'est la complémentarité entre le tribunal territorialement compétent et puis la Cour pénale internationale si l'État compétent n'a pas les moyens ou n'a pas la volonté de juger.
Qu'est-ce que signifie qu'une notion n'est pas exploitée juridiquement ? On l'a dit longtemps de la notion de crime contre l'humanité. C'est le laps de temps entre Nuremberg et les années 1990 avec la mise en place des tribunaux, ou bien il faut attendre l'adoption des différentes conventions. Qu'est-ce que signifie qu'une notion n'est pas juridiquement exploitée, qu'elle n'est pas appliquée ?
Oui, il faut le prendre pratiquement à la lettre. C'est-à-dire qu'on a défini le crime contre l'humanité à l'occasion du statut de Nuremberg. La définition a été reprise par les Nations Unies et on a commencé, au lendemain de Nuremberg pratiquement, à discuter sur la création d'une Cour pénale internationale. On avait d'ailleurs commencé avant la Deuxième Guerre mondiale, on avait proposé de créer une Cour pénale internationale à propos du terrorisme. C'est intéressant de le souligner parce qu'on se repose maintenant la question pour le terrorisme depuis les attentats du 11 septembre 2001, mais il n'y a pas eu d'accord sur la définition à donner et surtout sur les faits qui pourraient justifier le terrorisme dans le cas des guerres de libération. Ce qui fait que le terrorisme n'est toujours pas passible d'une Cour pénale internationale. Mais pour revenir à votre question sur la notion qui reste en sommeil, en quelque sorte, donc cette définition du crime contre l'humanité, elle apparaît en 1945. Dans l'après-guerre, elle est reconnue par les organisations des Nations Unies, mais on n'arrive pas à l'appliquer parce qu'il n'y a pas de convention internationale qui crée une juridiction. Elle est appliquée pour les comportements commis pendant la guerre, par les droits nationaux qui ont incorporé les textes internationaux. Par exemple, en France, on a utilisé les textes à propos de l'affaire Barbie ou de l'affaire Touvier. Donc la notion n'est pas restée complètement en sommeil. Ce qui est plutôt resté en sommeil, c'est la possibilité de faire juger ces crimes par des juges internationaux. Et là, il y a eu beaucoup de projets accumulés et finalement, il a fallu la violence et l'horreur des guerres civiles dans l'ex-Yougoslavie et au Rwanda pour amener le Conseil de sécurité des Nations Unies à créer par une simple résolution, sans convention internationale, simple résolution du Conseil de sécurité, ces tribunaux. Donc c'est une procédure qui a été extrêmement vite.
Alors qu'on s'en est privé, presque pendant les années 50 et 60, quand même, il y a eu des
problèmes.
Dans
les années antérieures, il y a eu toutes les guerres de décolonisation qui rendaient les États dans lesquels ces guerres se déroulaient extrêmement sensibles. Ça ne les incitait pas à créer des juridictions internationales.
Alors, la révolution biotechnologique qu'on connaît ces dernières années nous a fait entrer dans une société nouvelle. Et là, cette fois, on peut peut-être supposer, on espère que non, mais que l'humanité pourrait être menacée non pas seulement par des persécutions ou des exterminations, celles qu'on a évoquées précédemment dans l'entretien, mais qu'elle pourrait être menacée par un risque eugénique ou par ce qu'on appelle le biopouvoir. Donc toutes ces nouvelles menaces sont-elles prises en compte par le droit en ce moment, le droit international ?
Par le droit international, très timidement. Mais en revanche, le droit français, pour parler de notre pays, le législateur français a introduit dans le code pénal un crime d'eugénisme et un crime de clonage reproductif humain. Le clonage n'est pas encore une pratique qui existe, mais on sait qu'elle devient possible, elle existe pour les animaux, on sait qu'elle devient possible pour l'être humain, et il a paru nécessaire de l'interdire. Mais alors très curieusement, le législateur a qualifié ces deux crimes, non pas de crimes contre l'humanité, mais de crimes contre l'espèce humaine. Alors ce qui crée une sorte de distinction entre l'humanité et l'espèce humaine, c'est très curieux parce que c'est vrai que l'humanité est au confluent, me semble-t-il, de deux processus qui sont l'évolution biologique autour d'une espèce unique et puis l'évolution éthique ou culturelle qui s'est faite par différenciation des cultures. Mais c'est ça qui constitue l'humanité. Et les deux processus, l'apprentissage, disons, humaniste ou l'apprentissage culturel d'un côté, l'évolution biologique de l'autre, sont absolument indissociables. Donc il peut paraître même dangereux d'avoir ainsi dissocié l'espèce de l'humanité. Je pense que sur le plan international, en tout cas, il serait nécessaire de réunifier ces concepts et de reconnaître que l'humanité peut être menacée par des exterminations, comme vous l'avez dit, par des destructions de vie humaine, Mais elle peut être menacée aussi maintenant par certaines façons de fabriquer la vie. Fabriquer la vie par sélection génétique, fabriquer la vie par clonage reproductif.
C'est un débat dans la communauté des juristes ?
On commence à en débattre parce que, au fond, derrière le crime contre l'humanité, j'ai laissé tout à l'heure en suspens la question quelles sont les composantes philosophiques, en quelque sorte, de l'humanité. On peut dire qu'il y a plusieurs principes, mais qui sont indissociables. Un principe de singularité, chaque être humain est singulier, particulier, doit être protégé en tant que tel. Mais en même temps, un principe d'égale appartenance à la communauté humaine. L'égale appartenance, c'est l'égale dignité de chaque être humain. Et puis peut-être, faut-il ajouter, en pensant justement aux pratiques biotechnologiques dont nous avons parlé, un principe d'indétermination. L'être humain ne peut pas être enfermé dans une prédétermination. Ce qui est la distinction, la caractéristique de l'être humain par rapport aux autres êtres vivants, c'est la part d'indétermination, c'est ce qu'on appelle la liberté, le libre arbitre, ce qui fait qu'en même temps nous sommes responsables de nos actes. Et cela, c'est quelque chose qui devient important par rapport, par exemple, à des pratiques de clonage reproductif. On sait que les produits du clonage, vous voyez, j'emploie déjà ce mot de produit qui est très ambigu en lui-même. Les enfants nés d'un clonage ne seront pas forcément identiques. Mais il y a le fait d'une reproduction non sexuée, une réduction de la part de hasard, donc de la part d'indétermination qui fait partie de la liberté humaine. Donc il y a quelque chose, on touche à quelque chose d'essentiel, philosophiquement, en prédéterminant le patrimoine génétique de l'enfant ainsi cloné.
Est-ce que c'est pénalisé ?
Il y a
donc
des
là,
sanctions.
Il n'y a un débat.
Il n'y a pas encore de pratique pour pas, ce qui est voilà. du clonage. Il y a des sanctions qui sont prévues, qui sont d'ailleurs curieusement pas tout à fait les mêmes que pour le crime contre l'humanité. Elles sont un peu moins lourdes. Si on voulait adopter une convention internationale élargissant donc le crime contre l'humanité à ce genre de pratique, il faudrait garder quand même la même structure, c'est-à-dire ne pas incriminer tout comportement isolé de génisme ou de clonage, mais incriminer des comportements massifs et systématiques.
Collectifs,
massifs, systématiques. En revanche, un comportement isolé peut déjà tomber sous le coup du droit français. Donc on pourrait avoir une sorte de gradation. Dans le cas d'un comportement isolé, on applique simplement le droit interne, le droit national. Mais dans le cas de pratiques massives, systématiques, concernant toute une population, alors là, je crois vraiment qu'il faudrait assimiler l'eugénisme et le clonage aux crimes contre l'humanité.
Donc fondre les crimes contre l'espèce humaine dans la notion de crime contre l'humanité, c'est une tendance possible du droit que vous souhaitez ?
Oui, mais je ne les appellerai pas crimes contre l'espèce humaine. Je dirais simplement que parmi les actes constitutifs de crimes contre l'humanité, il n'y a pas seulement la destruction, il peut y avoir aussi la fabrication de vie. Pas dans n'importe quel cas de figure, parce que sinon on arrête toute recherche scientifique et tout progrès médical. Donc uniquement dans les cas où il y a violation de ces trois principes, singularité, égale appartenance à l'humanité et indétermination de l'être humain. Toutes les biotechnologies, toutes les techniques nouvelles en matière médicale doivent pouvoir continuer à progresser. Sinon, si on adopte des définitions trop vagues et trop larges, on arrête toute recherche scientifique et tout progrès. C'est pas ça que le droit doit servir.
Ça recouvre évidemment le principe de dignité humaine.
Oui, la dignité humaine rejoint ces définitions que j'ai tenté de faire de l'humanité.
Quelle est votre définition d'humanité, Mireille Delmas-Marty ?
Mais vous savez, c'est une question redoutable. Hannah Arendt qui disait « On ne peut pas durcir en mots ce qui fait l'essence vivante de la personne ». Le problème, c'est qu'effectivement, avec les technologies actuelles, on se demande si on n'en est pas venu à la nécessité de durcir en mots. Alors moi, j'ai essayé de le faire avec mes mots maladroits, mais en partant de la liste qui est dans les textes, donc en partant du droit positif, je ne suis pas partie d'une idée philosophique de l'humanité, je suis partie de ce que le législateur international a considéré comme crime contre l'humanité, et je vois comme dénominateur commun ces trois principes que j'ai énoncés, la singularité de chaque être humain, son égale appartenance à la même communauté humaine, même s'il appartient en même temps à des communautés intermédiaires, et puis ce principe d'indétermination.
Comment traiter des grandes questions d'environnement qui pourraient porter atteinte à l'humanité tout entière ? Est-ce qu'il existe un crime contre l'environnement? Comment est-ce qu'il évolue? Est-ce qu'il
dans
est
la
en train
catégorie, de... mais il n'y a pas un crime international contre l'environnement.
Non, ça n'existe pas encore.
Il y a dans la catégorie des crimes de guerre des cas de figure qui visent l'environnement, mais il n'y a pas un crime qui serait le pendant du crime contre l'humanité, qui serait un crime contre l'environnement. La destruction du vivant, ça a été proposé parfois.
Les Russes, avec leur écocide, c'est pas la même chose.
Oui, il y a dans les droits nationaux beaucoup de dispositions pénales en matière d'environnement. Dans les droits internes, dans le droit français, dans le droit russe et bien d'autres. Et même en droit européen, l'Union européenne a pris plusieurs dispositions pour demander aux États membres d'incriminer un certain nombre de comportements contre l'environnement. Donc l'environnement est déjà largement protégé par le droit pénal national et européen. La question que posent certains auteurs, notamment Laurent Néret dans notre livre commun sur le crime contre l'humanité, ça me donne l'occasion de rappeler que vous m'interrogez sur le crime contre l'humanité à propos d'un livre que nous avons écrit à quatre.
Vous êtes toute une équipe, et c'est
toute
votre
une équipe,
équipe
avec Isabelle Fouchard, Emmanuel Afronza et Laurent Néret. Et Laurent Néret, qui n'est pas spécialement pénaliste, mais qui est spécialiste du droit du vivant, pose la question à la fin du livre de savoir s'il ne faudrait pas créer dans le prolongement du crime contre l'humanité un crime contre le vivant. Alors il propose différentes hypothèses.
Parce qu'il s'agit de définir en fait l'humain ou ce qui n'est pas humain et on se rend compte que ça débouche aussi sur la définition d'une humanité qui serait plutôt le vivant.
Oui, alors c'est assez compliqué. Est-ce qu'on protège l'environnement ? C'est-à-dire les vivants non humains, les animaux, les végétaux.
Parce qu'il aborde cette question pour les fonds marins.
Oui. Est-ce qu'on protège l'environnement en tant que tel ou est-ce qu'on le protège parce qu'il est...
Une condition sine qua non.
La condition nécessaire à la survie de l'humanité. Ça, c'est une question que tout le monde ne tranche pas de la même manière. Est-ce qu'on le protège comme patrimoine commun de l'humanité ou est-ce qu'on le protège en tant que tel? Est-ce qu'il y a, autrement dit, un devoir des humains par rapport à ceux qui vont les suivre, par rapport aux générations futures. La survie des générations futures passe par la protection de l'environnement présent. Ça, c'est une première approche. Et là, je crois qu'il y a un accord qui se dessine progressivement. On le voit d'ailleurs à propos du changement climatique qui concerne les générations qui vont nous suivre, qui commence à concerner la génération présente, d'après certains scientifiques, mais qui, en tout cas, concerne les générations futures. Là, il y a une sorte d'accord pour dire que nous sommes responsables vis-à-vis des générations futures. Mais est-ce que cette responsabilité va encore au-delà? Est-ce que nous sommes responsables de l'ensemble de la nature? Et là, la question reste très ouverte selon les traditions. Alors, la difficulté avec ce genre de questions, c'est comment limiter les risques en matière d'environnement sans pour autant arrêter toute action humaine. C'est pourquoi un crime général d'atteinte à l'environnement me paraît difficile à accepter d'abord et à appliquer ensuite.
Donc les réponses qui sont proposées, c'est par exemple de créer des notions comme un patrimoine naturel commun à l'humanité pour préserver certaines zones.
Oui, on parle beaucoup en droit interne de crimes contre la sûreté de l'État. On pourrait imaginer un crime contre la sûreté de la planète et contre l'équilibre de la biosphère. Mais ça veut dire que c'est un crime qui viserait vraiment les cas extrêmes, ce qui met en danger la sûreté de la planète et l'équilibre de la biosphère. Je préférerais une définition de ce type plus encadrée et plus restrictive que la notion de biocide, par exemple. Extermination de ce qui est vivant. Ça me paraît beaucoup trop large.
C'est ce que vous abordez dans votre ouvrage à paraître, Liberté et sûreté dans un monde dangereux ?
Oui, à la fin de l'ouvrage, parce que je commence au fond en disant le monde est dangereux, et il est dangereux pour les personnes, il est dangereux pour les États, et il est dangereux pour la planète. Et donc dans la troisième partie, effectivement, j'aborde la question de ces dangers pour la planète.
Mireille Delmas-Marty, est-ce que le droit reflète nos peurs ?
D'une certaine manière, je disais tout à l'heure que la liste des crimes contre l'humanité, c'est le reflet des peurs d'un moment, en tel moment ou en tel lieu. Alors, c'est vrai que le concept de sécurité, c'est une réponse à la peur. Le problème, c'est de ne pas transformer nos sociétés en sociétés de la peur, dans la mesure où la peur est souvent mauvaise conseillère. Quand il s'agit de la peur de l'autre, elle peut conduire à l'exclusion, à la fermeture, à la clôture. D'ailleurs, on construit des murs. À l'époque où les marchandises circulent librement à travers les frontières, on construit des murs pour empêcher les migrations, par exemple. Mais en même temps, c'est vrai que la peur, on ne peut pas faire sans la peur. La peur fait partie aussi de la vie humaine. Et la peur peut devenir bonne conseillère quand il s'agit de la peur de catastrophe commune, et que le sentiment de peur, à ce moment-là, crée une sorte de solidarité qui peut rapprocher les êtres humains les uns des autres, qui peut construire des ponts plutôt que des murs. Et pensez à un exemple tout récent avec Haïti. Devant cette catastrophe, il y a eu des réactions de solidarité. Pensez à cette grande déception après la conférence de Copenhague sur le changement climatique. Il y avait manifestement, de la part des organisations non gouvernementales, mais plus largement de la part des populations, une grande attente. Et une attente qui était une attente de solidarité face à une peur commune de mettre en danger la survie de la planète. Donc la peur peut devenir bonne conseillère si elle inspire un sentiment de solidarité qui nous aiderait au fond à transformer ces sociétés de la peur en une communauté de destin. Prendre conscience que nous avons le même destin, puisque nous appartenons tous à la même famille humaine et à la même petite planète fragile. Alors c'est la conclusion de ce livre.
Vous concluez votre ouvrage « Liberté et sûreté dans un monde dangereux » en disant, Mireille Delmas-Marty, « En somme, une communauté de destin dans un monde imprévisible, c'est une communauté capable à la fois d'anticiper et d'innover dans les technologies, mais aussi dans les réponses juridiques. » Mireille Delmas-Marty, merci de nous avoir montré que le crime contre l'humanité est une notion toujours en devenir, comme l'humain lui-même et comme le vivant. Ce sont aussi vos propres mots et les derniers mots de ce petit ouvrage « Dense et clair » publié au PUF, « Le crime contre l'humanité » publié en septembre 2009, que vous avez écrit avec Isabelle Fouchard, Emmanuela Fronsard et Laurent Néret. Dedans, on trouve un excellent petit tableau récapitulatif aussi qui est très très utile. Je rappelle, Mireille Delmas-Marty, que vous êtes titulaire de la chaire Études juridiques comparatives et internationalisation du droit au Collège de France et que vous êtes membre de l'Institut, très exactement de l'Académie des sciences morales et politiques, et que nous sommes toujours ravis de vous recevoir.
Merci. Moi aussi, toujours ravie de venir. Merci.